Je vais répondre à quelques questions posées, puisque de fait, c'est le dernier cours. C'est peut-être intéressant d'essayer de préciser certaines questions. Alors la première, vous avez rapidement effleuré le problème de l'immortalité de l'âme la semaine dernière, en mentionnant trois niveaux d'étude du problème. Le problème de la saisie de l'universel et des principes propres, c'est-à-dire réflexion à partir du problème de la connaissance. Deuxièmement, le point de vue du dépassement par le point de vue de l'amour. Et enfin, celui de l'adoration. Pouvez-vous préciser les deux premiers niveaux et expliquer pourquoi le premier ne suffit pas, ce qui me fait comprendre le second, et pourquoi seul le troisième niveau me donnera une certitude au niveau proprement métaphysique. Oui, c'est un très gros problème. Alors je n'ai fait que l'effleurer. Je veux bien y revenir quelques instants, parce que le problème de la personne humaine au niveau métaphysique implique nécessairement, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, implique nécessairement le problème de la substance et du comment de la substance humaine. Il faut bien comprendre. Le problème de la personne au niveau métaphysique, qui noue toute la recherche de la métaphysique avant le dépassement de la métaphysique. Si dépassement il y a. Je ne peux pas le dire d'avance. Le dépassement de la métaphysique, c'est la découverte d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Puisque c'est au fait là où il y a un certain dépassement de la philosophie première en théologie naturelle. En théologie naturelle, c'est encore la métaphysique, si vous voulez, mais c'est plus que la métaphysique. La métaphysique regarde l'homme, comme toute la philosophie. Tandis que la théologie naturelle montre comment l'homme ne peut pas être parfaitement regardé si on ne dépasse pas l'homme. C'est-à-dire, s'il existe véritablement un être premier que nous appelons Dieu, que les traditions religieuses appellent Dieu, ou que la révélation appelle Dieu, s'il existe véritablement un être premier que mon intelligence métaphysique peut découvrir et affirmer, parce que si mon intelligence métaphysique ne peut pas l'affirmer, si je suis dans un agnosticisme absolu, vous comprenez que la découverte de l'être premier ne modifie plus rien au point de vue recherche philosophique, puisque je ne peux pas l'atteindre. Je resterai dans l'agnosticisme, c'est tout. Et au fond, le point terminal de toute la philosophie serait l'homme et serait la personne humaine. Je crois que toute la première partie de la métaphysique demeure la même, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Mon concept d'être, mon jugement d'existence n'est pas modifié par la découverte de l'être premier, puisque je n'ai pas de concept de Dieu. Et mon jugement d'existence demeure le même. Donc toute la première partie de la métaphysique demeure la même. Ça, c'est très important de comprendre ça. Mais, je vous l'ai dit, l'anthropologie change. Parce que si Dieu existe et que je suis capable d'atteindre l'existence de Dieu, il y a nécessairement une nouvelle dimension de l'homme. C'est la découverte de l'homme religieux, au niveau proprement philosophique, qui se fait dans une perspective de théologie qu'on dit naturelle. C'est-à-dire une théologie qui reste au niveau philosophique, qui reste une recherche de l'intelligence. Alors, le problème de l'immortalité de l'âme se pose nécessairement au niveau de la philosophie du vivant. Mais au niveau de la philosophie du vivant, je ne peux pas conclure. Mais au niveau de la philosophie du vivant, je crois qu'il y a quand même un problème très important qui se pose. C'est le problème de la découverte de l'intelligence. Et le problème de l'intelligence qui découvre le point de vue de l'universel.
y a eu erreur de ça.
L'intelligence qui est capable de découvrir l'universel. Et en découvrant l'universel, peut évidemment se poser le problème, l'intelligence humaine est-elle capable d'aller plus loin ou non ? Oui. Donc là, il y a un problème qui se pose au niveau de la philosophie du vivant. Au niveau de la philosophie du vivant, il y a ce problème que l'intelligence humaine, capable de découvrir des principes, capable de découvrir donc quelque chose de nécessaire, l'intelligence humaine est-elle capable, et est-elle l'intelligence humaine, parce qu'elle est capable d'atteindre le nécessaire, est-ce que l'âme humaine, source du nous, est-elle immortelle? Oui. C'est comme ça que, d'une manière générale, on l'a posé apologétiquement, à partir de saint Thomas. Parce que la position de saint Thomas n'est pas une position apologétique, c'est une position de théologien. Mais on a posé apologétiquement le problème de l'immortalité de l'âme de cette manière. Je crois que c'est une erreur, personnellement. Je crois que saint Thomas, en théologien, a parfaitement le droit de faire cela, parce que en théologien, il sait que l'âme est immortelle. Et il se demande comment nous pouvons, par l'intelligence humaine, rejoindre ce problème. Ce qui est un problème très important. C'est bien évident. Les deux grands problèmes, le problème de la découverte de l'existence de l'être premier et le problème de l'immortalité de l'âme. C'est évident que c'est très très important ces deux problèmes, au point de vue philosophique, vous comprenez bien. C'est, au point de vue de la foi, ça m'est donné tout de suite. Mais au point de vue métaphysique, c'est quand même deux problèmes très importants. Alors, je crois qu'au point de vue de la philosophie du vivant, je découvre le nous capable de découvrir les principes, capable de découvrir l'universel, et c'est pour moi un signe de l'immortalité de l'âme, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que ma connaissance demeure toujours selon un mode intentionnel. La découverte des principes, même si les principes sont quelque chose de substantiel, je les découvre sous un mode intentionnel. Et parce que ma connaissance est sous un mode intentionnel, je ne peux pas, à partir de la nécessité que je découvre dans l'intentionnalité de ma vie intellectuelle, affirmer que mon âme est nécessaire. Et donc qu'elle est immortelle. Mais ça pose le problème. C'est pour ça que je dis que c'est un signe. C'est un signe très important. Je ne crois pas qu'on puisse démontrer vraiment, à partir d'une forme intentionnelle, l'immortalité substantielle de l'âme. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une condition de possibilité à l'immortalité?
C'est pour ça que je dis que c'est un signe. Vous voyez? Et j'aime mieux dire que c'est un signe. Vous voyez ? Parce qu'une condition d'immortalité, la condition, vous ne la posez qu'après coup. Tandis que là, vous posez le signe. Vous voyez ? Au point de vue démonstration, au point de vue recherche. Je crois que c'est mieux de dire que c'est un signe. C'est un signe qui vous alerte et qui vous dit, mais qu'est-ce que ça représente exactement ? Cette capacité de l'âme spirituelle qui est capable d'atteindre l'universel, qui est capable d'atteindre des principes propres, nécessaires. Donc, qui, dans sa connaissance, atteint du nécessaire. Si dans sa connaissance, elle atteint du nécessaire, est-elle elle-même nécessaire? Vous voyez? Nécessaire dans sa substance. L'immortalité veut montrer qu'on est au-delà de la contingence. Et donc qu'on est dans le nécessaire. Et que c'est un nécessaire substantiel. Vous voyez? Alors, je dis un signe parce que je crois. Et remarquez que c'est très souvent ce qui arrive, hein, parce que les démonstrations apologétiques, hein, si vous regardez les démonstrations apologétiques, c'est toujours intéressant de regarder les démonstrations apologétiques du début du siècle, n'est-ce pas, de vers 1920, 1930, il y avait une grande apologétique à ce moment-là, des apologétiques très extraordinaires. C'est très intéressant de les lire actuellement, on voit combien ça a passé vite. Pourquoi ? Parce que ces démonstrations apologétiques, elles sont à base rhétorique. Or, la rhétorique se sert de signes. Aristote dit ça dans la rhétorique. Les raisonnements rhétoriques se servent de signes. C'est pour ça que je prends exprès le signe. Vous voyez ? Pour montrer que de fait, ça peut très bien fonder une argumentation rhétorique. Je peux très bien faire un plaidoyer pour l'immortalité de l'âme à partir de l'universel, la connaissance de l'universel et la connaissance des principes. Et je fais un plaidoyer pour l'âme immortelle. Prenez, l'âme a besoin d'un plaidoyer, complète son immortalité, parce que si elle n'est pas immortelle, il y aura au moins le plaidoyer. Vous voyez, c'est déjà quelque chose qui demeurera, n'est-ce pas, qui sera donc une espèce d'antidestin. Il y aura le plaidoyer de l'âme immortelle par le point de vue du signe. Mais je ne peux pas aller plus loin, c'est un signe. Bon, ça c'est la réponse première. C'est important. En philosophie du vivant, lorsque je suis en métaphysique, est-ce que la connaissance de l'être, en métaphysique, la découverte de l'être, la découverte du principe propre de l'être, de la substance, la découverte de l'acte, est-ce que ça me permet d'aller plus loin? C'est intéressant de se poser le problème. Est-ce que la découverte de l'acte, l'antériorité absolue de l'acte sur la puissance, me permet de dire que nécessairement mon âme spirituelle qui découvre l'antériorité absolue de l'acte sur la puissance doit elle-même être en connaturalité, puisqu'il y a toujours ce vieux principe platonicien que toute connaissance implique un certain principe de similitude. C'est le vieux principe de Platon, il ne faut pas l'oublier. Il y a quelque chose de vrai, mais il y a quelque chose de faux aussi. Ce principe de Platon, que toute connaissance implique un principe de similitude. Vous comprenez qu'avec ça, je vais tout droit vers l'ontologisme. Et c'est intéressant que Platon l'a dit. Parce qu'il a posé le principe de l'ontologisme. Et si j'accepte tout ce que Platon dit, ben nécessairement je serai ontologiste. Ce sera l'ontologisme, la grande porte. C'est une philosophie très noble, l'ontologisme, mais c'est une philosophie qui n'est pas entièrement vraie. C'est l'inconvénient. Mais elle a une très grande noblesse. Ça, c'est peut-être la philosophie la plus noble, au point de vue noblesse. N'est-ce pas ? Mais la noblesse n'est pas la qualité dominante de la philosophie. Nobilitas. N'est-ce pas ? La nobilitas de la connaissance n'est pas la qualité première d'une connaissance. La qualité première d'une connaissance, c'est d'être vrai. J'aime mieux une philosophie noble qu'une philosophie qui soit avilissante, vous comprenez ? Une philosophie noble, elle élève, mais elle va un peu trop loin. Alors c'est intéressant de voir que ce principe de Platon, que la similitude est au cœur de toute connaissance, ce principe, je dois mettre un bémol, parce que ce n'est pas la similitude ontologique, c'est la similitude intentionnelle. Alors, toute la différence entre l'intentionnalité et le point de vue de l'ontologique. Vous connaissez bien certains cours où on montre comment de l'intentionnalité on peut passer au réel, à l'existence, n'est-ce pas ? C'est le fameux problème de Descartes. C'est le fameux problème de Descartes. C'est le problème de toute pensée ontologique. Toute pensée ontologique se pose le problème si je peux, à partir de l'intentionnalité, rejoindre le réel. Et comment, à partir de l'intentionnalité, puis-je rejoindre le réel ? Vous voyez ? Parce qu'on commence par l'idée. On s'enferme dans l'idée. Je crois que la métaphysique ne change pas le problème, mais le rend plus urgent. C'est ça l'intérêt. C'est qu'au plan métaphysique, le problème du signe devient beaucoup plus fort encore qu'en philosophie du vivant. Cependant, je peux dire que grâce à la métaphysique de l'acte, je vois que le bien est une des modalités de l'acte et que je suis capable d'atteindre ce bien en l'aimant. Donc, il y a là un problème qui se pose d'une manière très nette. Est-ce que le point de vue de l'intentionnalité dans l'ordre affectif, que l'amour spirituel, c'est à l'intérieur de l'intentionnalité affective. Est-ce que l'intentionnalité affective permet de poser une réalité que j'aime, cette réalité qui est le bien, et qui est le bien dans ce qu'il a de plus absolu, est-ce que l'amour de ce bien me permet de dire que je suis immortel? Voyez. En éthique, l'amour d'amitié me fait rejoindre une personne. Quand j'aime une personne, je voudrais que cette personne ne meure jamais, qu'elle soit immortelle dans ce qu'elle a de plus elle-même. Mais c'est un souhait. Vous voyez ? Alors j'ai un souhait, j'ai un signe. Et puis l'amour au plan métaphysique que j'établis par rapport au bien me montre que je suis capable de me dépasser et de dépasser toute personne humaine pour tendre vers un bien absolu. Mais ce bien absolu, je ne sais pas c'est qui. Tant que je n'ai pas découvert si Dieu existait. Je ne sais pas ce qu'il est, un petit peu comme pour Platon. Le bien en soi. Le bien absolu, qu'est-ce qu'il est ? J'ai cette soif de dépassement, de rejoindre ce bien. Mais je demeure toujours dans une intentionnalité, même si cette intentionnalité est affective. Donc, de nouveau, c'est un signe. Pas plus. Je ne peux pas, à partir de l'intentionnalité affective, poser l'existence nécessaire d'un bien absolu et de poser l'existence nécessaire de mon âme immortelle. De sorte que c'est lorsque j'ai découvert l'existence d'un être premier que tout le problème change. Mais il faut d'avoir découvert l'existence d'un être premier pour pouvoir affirmer l'immortalité de l'âme. Personnellement, du moins pour moi, j'en suis de plus en plus convaincu. C'est montre l'importance justement de la découverte de l'existence de l'être premier qui me permet philosophiquement de montrer à partir de là que de fait mon âme est immortelle parce que mon esprit est capable d'atteindre une réalité première qui elle existe au-delà de toutes les autres réalités. Je suis capable de la rejoindre en l'aimant par l'adoration et par la contemplation. Et ceci me montre que si mon esprit est nécessairement créé immédiatement par Dieu, mon esprit est capable de rejoindre ce Dieu. Et qu'il y a en moi quelque chose, une étincelle du divin, comme disaient les anciens, comme disaient les néoplatoniciens. Mais voyez, je crois que c'est très important de saisir que de fait, au niveau proprement spéculatif, je ne peux démontrer ou montrer, comment vous aimez mieux, ça n'a pas d'importance, montrer l'immortalité de l'âme, donc que l'âme substantiellement est immortelle, qu'après avoir découvert l'existence de l'être premier. Bon, ceci, c'est pour compléter le problème de la personne. Vous voyez ? Alors, vous voyez, c'est assez curieux, parce qu'alors vous diriez, donc, métaphysiquement, je parle du problème de la personne sans avoir vu l'immortalité de l'âme. Et c'est vrai. Je crois qu'on peut parler du problème de la personne humaine sans avoir explicitement démontré l'immortalité de l'âme. Mais c'est un appel, hein. Il y a des signes qui me montrent que je suis en face d'un problème qui me dépasse. Dans le langage de Gabriel Marcel, je dirais, je suis en face d'un mystère. La personne humaine me semble un mystère. Et qu'il doit y avoir une immortalité de l'âme pour qu'il y ait une personne parfaite. Vous voyez ? C'est ça que je peux dire. Mais au fond, ce ne sera qu'à partir de l'existence de l'être de Dieu et à partir du problème de la création que je peux montrer pleinement et totalement ce qu'est la personne humaine. Et donc la personne humaine n'est montrée pleinement et totalement qu'à partir d'une personne religieuse. Alors ça c'est très intéressant parce que ça montrerait que métaphysiquement la personne n'est vraiment saisie comme personne qu'à partir de ce lien de dépendance de l'homme à l'égard de l'être premier. Bon, je ne vais pas plus loin. Pourriez-vous préciser la place de la réflexion sur la manière d'exister de l'être premier par rapport à la contemplation philosophique. Il semble que cette démarche demeure plus intellectuelle, touchant le qualitaire, alors que la contemplation est plus affective, touchant la personne divine. La personne, cette personne, peut-on la toucher en elle-même, en dehors de la lumière de la foi? Mais là, on touche un problème très important. Quelle est cette connaissance ou cette présence? Quel est le rôle de l'intelligence méditative dans cette transformation de l'amour d'adoration en contemplation? Peut-on déjà parler d'une lumière de l'amour dans la foi dont sagesse, au niveau de l'adoration philosophique? La contemplation étant là pour permettre une adoration plus profonde, un amour plus profond. Saint Thomas dit dans le Contra Gentiles que la plus haute connaissance est de connaître que l'on ne connaît pas Dieu, qu'on ne connaît pas ce qu'est Dieu, hein. Faisons attention, hein. Saint Thomas ne dit pas ça, il dit se connaître pas ce qu'est Dieu, c'est le quid. La plus haute connaissance consiste dans le mode négatif, parce que la plus haute connaissance ne consiste pas à dire que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? C'est non, la plus haute connaissance consiste à dire, il faut être précis là-dessus, hein. Saint Thomas dit dans le Contra Gentiles que la plus haute connaissance est de connaître l'aspect négatif de l'existence de Dieu, l'aspect négatif de Dieu affirmé. Donc Saint Thomas reconnaît toujours que l'intelligence humaine peut affirmer l'existence de Dieu. Si je peux affirmer l'existence de Dieu, il y a donc quelque chose de positif au-delà de la négation. Ça, il faut le reconnaître. Le permodum eminentiae. Bon, ça a été très discuté dans les thomismes. Il y a deux courants. Il y a le courant négatif du père Sertilange, pour prendre quelqu'un tout à fait proche de nous, le courant négatif du père Sertilange qui dit que ce qu'il y a de plus haut dans la connaissance de Dieu, c'est la négation. Et il se fonde sur ce texte de saint Thomas. Et d'autres, au contraire, disent que c'est le permodum eminentiae qui dépasse. Pour moi, personnellement, je dirais que c'est le permodum eminentiae et non pas le permodum negationis. Parce que s'il y a découverte dans un jugement d'existence de la nécessité de poser l'être premier que nous appelons Dieu, il y a quelque chose de positif. C'est impossible autrement. La négation vient ensuite pour purifier tous les attributs divins, toute la manière d'exister de Dieu. Mais cette négation permet de revenir ensuite dans une contemplation. Vous voyez, c'est ça qu'il y a trois mouvements, c'est les trois fameux mouvements de Denis que saint Thomas a toujours gardés, et je crois qu'ils sont importants. Le permodum causalitatis, c'est par mode de causalité que j'affirme l'existence d'un être premier. Par mode de négation, je m'approche le plus possible de lui. Mais c'est vrai que ce permodum negationis est très très important, et ceci permet le permodum eminentiae. Vous voyez, je ne comprendrais pas très bien un permodum eminentiae sans le permodum negationis. Et je ne comprends pas très bien un permodum negationis, donc par mode de négation, qui termine tout. Parce que de fait, le point de départ implique cette connaissance affirmative de l'existence d'un être premier. Vous voyez, le premier, l'alpha et l'oméga, ça se rejoint. Et s'il y a cette affirmation première, il y a donc cette affirmation dernière. Ça, c'est très important comme vision, évidemment, par rapport à ce que représente la contemplation philosophique que nous pouvons avoir de Dieu. Alors, si vous voulez, hein, nous allons essayer de revenir sur toutes ces questions posées. Il y en a des quantités là-dedans, n'est-ce pas? Alors, il faut essayer de comprendre. Je vous disais hier, je reprends, hein, que après que le philosophe a découvert ce qu'est la personne humaine, il se pose la question, qui est la question fondamentale au point de vue philosophique. Donc je n'ai jamais le droit de la mettre entre parenthèses. Je peux très bien dire, ah, oh, ça me dépasse, attendons l'année prochaine. N'est-ce pas? Oui, ça c'est très bien. C'est une manière de se reposer. Mais si on est philosophe, on ne se repose jamais, donc on se pose la question. Alors on se pose la question, est-ce que la personne humaine est-elle la réalité ultime et dernière? Je dois me poser la question. Parce que, de fait, certains philosophes ont parlé de Dieu. Et donc, je n'ai pas le droit, a priori, de dire que la philosophie n'a pas le droit de parler de Dieu. Je crois qu'il faut être très très net là-dessus. Parce que dans la philosophie analytique, vous savez bien ce qu'on dit. Dans la philosophie analytique d'aujourd'hui, on dit que la philosophie n'a pas le droit de parler de Dieu. Dieu n'a pas de sens pour le philosophe. Disons, Dieu n'a pas de sens pour certains philosophes. Mais Dieu a un sens pour certains philosophes. Vous voyez ? Donc, à l'intérieur de la philosophie, il y a un grand débat. Et ce n'est pas nécessairement les derniers qui ont raison. N'est-ce pas ? C'est pas nécessaire. Il peut donc y avoir un grand débat. Alors, il faut essayer de reprendre ce grand débat sur la question... Est-ce que le mot « Dieu » a une signification pour le philosophe? Alors, je dirais d'abord, le mot « Dieu » a une signification dans les traditions religieuses. Le mot « Dieu » a une signification pour les croyants. Le mot « Dieu » est évidemment un mot qui n'a pas une signification immédiatement philosophique. C'est sûr. Mais... puisque les croyants considèrent que Dieu est le Créateur, et que les croyants considèrent que Dieu existe, par le point de vue de l'exister, le mot Dieu se réintroduit en métaphysique. Si évidemment j'ai nié la métaphysique, Dieu ne se réintroduit pas en philosophie par l'exister. Mais si je dis que Dieu vit, si je dis que Dieu est amour, Dieu se réintroduit en philosophie par le point de vue de la vie, par le point de vue de l'amour. Et je dois me poser la question, en toute loyauté, est-ce que c'est vraiment contradictoire de dire qu'il y a un vivant qui est source de tous les vivants? Est-ce que c'est contradictoire de dire qu'il y a un amour qui est source de tout amour? Est-ce que c'est contradictoire de dire qu'il y a une intelligence qui est source de toutes les intelligences? Alors, si je n'ai pas de métaphysique, je ne peux pas répondre. Seule la métaphysique peut répondre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas répondre que l'interrogation est bête. Non, ce serait mesurer toutes les interrogations à la dimension qu'on a. Donc l'interrogation demeure et elle demeure. Il faut accepter qu'il y a des interrogations devant lesquelles on ne donne pas de solution. Pourquoi pas ? Seul l'idéaliste n'interroge plus. Donc, quand celui refuse l'interrogation et refuse de répondre à cette interrogation, dites-lui, vous êtes un peu idéaliste. C'est parce que vous voulez mesurer la réalité selon votre connaissance. Puisqu'au fond, c'est ça l'idéalisme. Dans votre connaissance, vous avez rejeté la signification du concept, la signification du terme Dieu. Vous l'avez fait a priori. Dans votre philosophie, tout simplement, vous l'avez fait a priori, parce que vous avez donné au mot « signification des termes » une signification qui n'est peut-être pas entièrement juste. Si vous ramenez la signification uniquement à vos expériences, alors c'est très bien, mais il y a d'autres significations. Il y a des significations qui vont plus loin. Vous voyez, ça c'est le positivisme. Alors c'est évident que le positivisme nous guette tous. Mais le positivisme n'est pas philosophique. J'ai parfaitement le droit de lutter contre le positivisme au nom de la philosophie, en montrant que le positivisme n'est pas philosophique. Le positivisme enferme la philosophie dans une certaine signification de la philosophie. Mais ce n'est pas la philosophie. Donc je dois essayer de comprendre. Je dis ça, c'est parce que c'est important, on est devant tout le temps ces problèmes-là. Bon. Une fois que le philosophe se pose la question, existe-t-il un être, existe-t-il une réalité au-delà de la personne humaine, et qu'il découvre l'existence d'un être premier, que toutes les traditions religieuses appellent Dieu, il peut dire tout de suite que cet être premier est nécessairement une personne. Ça, il peut le dire tout de suite. Qu'il peut dire que cette réalité première est nécessairement absolument simple. Qu'elle est absolument parfaite, qu'elle est absolument bonne, qu'elle est intelligente, qui a la vie en elle, et qu'elle est amour. Il peut le dire philosophiquement, métaphysiquement, il peut aller jusque-là. Bon. Il peut ensuite se poser la question. Il se le dit. Ça ne veut pas dire qu'il en a l'expérience. Hein, faisons attention. Il n'a pas l'expérience de Dieu personne. Mais il touche, et je ne dis pas l'expérience, il touche l'existence de l'être premier. Avec son intelligence, dans cette manière de découvrir l'existence de l'être premier. Il y a un toucher, Tingei, nous l'avions vu. Il y a un toucher de l'intelligence qui aboutit à cet être premier. Et il peut affirmer cela. Il peut l'affirmer. Donc l'intelligence le touche. Mais l'intelligence n'a pas l'expérience de la personne divine. Autrement dit, l'amour naturel que j'ai vis-à-vis de Dieu, c'est un amour d'adoration. Ce n'est pas un amour de réciprocité. Quand je touche une personne et que je l'aime, il y a une réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité naturelle entre Dieu et moi. Mais j'affirme que je peux l'adorer. Donc il y a un premier amour vers Dieu qui est un amour d'adoration. Et je vous disais que cet amour d'adoration peut se transformer en un amour de contemplation. Alors c'est ça qui serait très intéressant à voir. Ce serait très intéressant pour bien comprendre ce que c'est que la contemplation philosophique, la contemplation de la théologie naturelle. Elle se fait à partir de l'adoration. Parce qu'à partir de l'adoration, je comprends ma dépendance radicale à l'égard de Dieu, dans mon âme spirituelle. Et je peux, à partir de là, remonter dans un regard contemplatif jusqu'à l'être premier. Alors vous allez me dire, comment ça va se faire, ça, hein ? J'aimerais bien avoir le mécanisme pour essayer de remonter la montre. L'adoration, je comprends à peu près. Mais vraiment, la contemplation philosophique, hein. La contemplation philosophique, c'est pas commode du tout. Ah oui, c'est que l'adoration, peut-être que l'adoration que vous dites que vous comprenez, n'est peut-être pas au niveau métaphysique, elle est peut-être simplement au niveau tradition religieuse. On est habitué, dans une tradition chrétienne, d'adorer. Alors il y a un pli du cœur vers l'adoration. Et là, j'ai dit oui, je comprends très bien l'adoration. Quand le métaphysicien, quand le philosophe découvre l'existence de l'être premier, qu'il découvre ce lien avec l'être premier, qu'il découvre ce toucher de l'intelligence, qu'il découvre que nécessairement mon âme est créée immédiatement par Dieu, il y a à ce moment-là une contemplation, il y a à ce moment-là une adoration toute nouvelle. C'est toujours la même adoration substantiellement, mais c'est une adoration qui se fait dans une lucidité philosophique, qui est toujours un acte d'amour, mais à l'intérieur de cette dépendance saisie à l'égard de l'être premier. Je suis radicalement dépendant de l'être premier. Et donc si je suis radicalement dépendant de l'être premier, je sais que l'attitude la plus vraie pour moi, c'est de l'adorer. C'est-à-dire de reconnaître ma totale dépendance à l'égard de lui. Et donc l'adoration, à ce point de vue-là, devient pour le philosophe le fondement de toute vérité pratique. Je suis vrai quand j'adore Dieu, pratiquement. Le fondement de toute vérité pratique, c'est ça qui est très important à saisir. Hein. Et je vois que l'être humain qui n'adore pas demeure errant, au sens propre. Parce qu'il ne sait plus pas où est sa finalité, où est sa fin véritable. Philosophiquement, je peux et je dois affirmer cela. Alors, à partir de cette adoration, puisque c'est ma fin que je touche, mon bien, la source de mon être, de mon intelligence et de mon amour. Je mets tout en cause pour essayer de voir si je peux vraiment faire plus qu'adorer et contempler. Dans l'adoration, mon intelligence se tait. Dans la contemplation, mon intelligence s'éveille. c'est le même amour, mais qui va se perfectionner, se purifier grâce à l'intelligence qui s'éveille. Tandis que l'adoration, c'est un poids d'affectivité. Il n'y a pas beaucoup de connaissances. Il y a uniquement le permodum causalitatis et le permodum negationis. Ça, c'est très vrai. Le permodum causalitatis, parce que j'ai démontré qu'il existait un être premier que nous appelons Dieu. Le permodum causalitatis, permodum negationis, c'est que je vois ma totale dépendance à l'égard de Dieu et que Dieu est tout autre, puisqu'il est source qui m'échappe. Mais je peux mettre mon intelligence au service d'un regard vis-à-vis de cet être premier pour découvrir sa présence. Et alors c'est là où ce que j'ai affirmé précédemment, que cet être est nécessairement une personne. Donc, elle est présente. Elle est nécessairement simple. Elle est nécessairement infinie. Pas de limite. Elle est nécessairement, par son acte créateur, d'une présence d'immensité. Et grâce à cette présence d'immensité, je puis me tenir dans une présence à l'égard de lui. Vous voyez, au fond, tous les attributs, ce qu'on appelle les attributs, toutes les manières d'exister de l'être premier, me permettent de mettre mon intelligence au service d'une certaine contemplation. Mais une contemplation qui passe toujours par un intermédiaire. Mon âme créée. Oui, mon âme créée. Et mon lien d'amour avec Dieu. Mon intelligence qui essaie de voir dans les réalités qui sont autour de moi un reflet de Dieu ou une image de Dieu. L'ordre qui existe dans l'univers devient pour moi comme le reflet de l'acte créateur, comme le reflet de la sagesse de Dieu. Et alors, par là, il y a comme un moyen pour moi de m'élever et de contempler. Oui. Je ne veux pas dire plus. Alors, je relève simplement ce qui est dit à la fin. Saint Thomas dit dans le Contra Gentiles que la plus haute connaissance est de connaître qu'on ne connaît pas Dieu, ce que fait le philosophe lorsqu'il découvre l'être premier. Peut-on dire que l'adoration, elle, nous donne une certaine connaissance affective naturelle de Dieu? Non, l'adoration ne nous donne pas une connaissance naturelle affective de Dieu, mais elle permet une contemplation. La présence est-elle plus du côté de l'intelligence que de l'amour? La présence est du côté de l'intelligence et de l'amour. Elle est du côté des deux, il ne faut surtout pas couper. Dieu est présent parce qu'il est source d'amour. Il n'y a pas aucun intermédiaire entre lui et moi. Et donc ça, c'est l'intelligence qui le dit. Qu'il n'y a aucun intermédiaire et qu'il est présent, mais qu'il m'échappe complètement. Je ne peux pas le saisir. Oui. Donc c'est une contemplation qui demeure, voyez, affective, s'appuyant sur l'adoration, qui demeure très négative, je suis tout à fait d'accord, très négative, mais qui est comme un appel vers la présence de celui qui est invisible, mais qui est toujours celui qui me regarde. C'est une présence, c'est une contemplation à travers un mur. Si j'ose dire, à travers un mur. Il est présent, je le sais, mais je ne peux pas le voir. Mais lui me voit, c'est suffisant, pour me tenir dans l'attention vis-à-vis de lui, en attendant qu'il me parle. Vous voyez, c'est un tout petit peu ce que Heidegger dit quand il parle de cette connaissance de Dieu. Il dit, j'attends que Dieu me parle. J'attends que Dieu enlève le voile. J'attends que Dieu enlève le mur. Si je sais qu'il y a un vilebrequin divin par derrière, tu vois, qui est en train de percer le mur, alors à ce moment-là, j'attends. J'attends qu'à un moment donné, il y ait un tout petit coin lumineux. J'attends que, de fait, le mur tombe. Oui. Et au fond, c'est une manière de reprendre ce que Platon disait, le philosophe attend la mort. J'attends que le mur tombe. Mais pas de la même manière que Platon, vous voyez. Je le redis d'une autre manière. Oui. Que ? On peut parler d'une béatitude, on peut dire que je ne sais pas, mais j'espère. Vous voyez ? C'est une espérance. C'est pas plus, il ne peut pas dire plus, le philosophe. Il attend. Mais il sait que le mur peut tomber. Il le sait. Il sait que le mur peut tomber. Il sait que le mur peut tomber si Dieu le veut. Que ça dépend de lui. Moi, je ne peux qu'attendre. Le philosophe comme tel est dans une espèce d'attente. Et c'est pour ça que la contemplation philosophique reste une attente. Mais c'est une contemplation quand même. Hein. C'est une attente parce qu'on s'appuie sur des effets de Dieu pour aller à la source et remonter à la source. Alors si vous voulez, cette contemplation est une remontée. C'est peut-être la signification du Père Modum Eminentiae. C'est se mettre dans ce grand élan qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter. Oui. Le Père Modum Eminentiae nous empêche de nous arrêter. Alors, c'est vrai que dans cette contemplation, il y a comme un grand appel vers une présence cachée et une présence lumineuse, une présence d'amour qui m'enveloppe, mais que je ne vois pas. Et ceci toujours à base de l'adoration. Je crois qu'il n'y a pas de contemplation philosophique sans l'adoration. Ça se tient. Alors, dernier problème que je ne traiterai pas, mais que je vous lis, n'est-ce pas ? Lors du problème de l'individuation, vous aviez noté que la distinction homme et femme touchant quelque chose de substantiel, étant donné que l'âme subsiste dans le corps. Que devient cette distinction homme et femme au niveau de la personne ? Elle est dépassée. La philosophie de Locke donne-t-elle une nouvelle lumière ? C'est la même personne métaphysique. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une personne, deux personnes. Si j'étais platonicien, je dirais qu'il y aurait deux personnes, mais pas en étant aristotélicien. Alors, remercie Aristote de dire ça. En étant aristotélicien, il n'y a pas. Si j'étais platonicien et néoplatonicien, je dirais nécessairement qu'il y a deux modalités de la personne. Si je suis aristotélicien, si je vais jusqu'au bout de la... Quand je dis aristotélicien, c'est la réalité. N'est-ce pas que j'essaie de saisir, c'est ça. Aristote exige de moi d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Bien, il n'y a pas deux personnalités différentes. Et vous comprenez très bien pourquoi. Parce que l'âme substantielle, substantiellement, est la même. L'individuation, elle, touche la substance, mais c'est un rayonnement de la substance. Ce n'est pas la source. Le point de vue de l'intelligence est la même, et le point de vue des capacités d'aimer est la même. Du côté de l'exercice, c'est un peu différent. Peut-on affirmer, lors de l'analyse de la personne religieuse, que la distinction homme et femme n'est pas ultime et qu'elle s'efface devant le Créateur ? Tout à fait d'accord. Mais elle s'efface même avant. Elle s'efface déjà au niveau métaphysique. Il n'y a pas une métaphysique de la femme et une métaphysique de l'homme. De sorte que ça me permet aux examens d'avoir le même barème du côté de la femme et du côté de l'homme. Alors, bonnes vacances. Et puis... Nous reprendrons après les vacances la métaphysique l'année prochaine, si Dieu le permet. Bon examen.